Vous écoutez France Culture.
Continent Science, Stéphane Deligeorges.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques aujourd'hui, Continent Science sur France Culture, tous les jours à 14h, toujours en direct bien sûr de la maison de la radio, et plus exactement du studio numéro 1, tout simplement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ouverture aujourd'hui, ouverture de cette semaine spéciale BAC, puisque d'une certaine façon, beaucoup d'émissions de France Culture sont dans l'exercice dit, avec guillemets, du bachotage, l'histoire, comme on l'a vu, la philosophie, et les sciences tous les jours. Et nous commençons nous ouvrons aujourd'hui avec les mathématiques. Véritable gageure, véritable émission, expérimentale d'une certaine manière, puisqu'il y aura énoncé d'un problème, résolution d'un problème, et cela avec deux invités, Étienne Gis, mathématicien, et François Sauvageau, mathématicien. Pas de chronique animalière, on aurait pu essayer de mettre des grains de riz sur un damier et doubler à chaque fois pour voir ce qui se passait, ou l'histoire des lapins. Je vois François Sauvageau qui nous fait le coup de Fibonacci. Mais non, ça va être tout à fait différent. Allez, une petite musique encore, juste pour respirer. Bonjour Étienne Gis.
Bonjour.
Mathématicien à Lyon. Bonjour François Sauvageau.
Bonjour.
Mathématicien aussi. Enseignant.
Oui, enseignant, oui.
Alors, première question, évidemment, nous sommes dans l'expérimental, ma foi, bon. Et Étienne Gis, pourquoi est-ce que vous avez accepté de mon invitation ?
Eh bien, parce que j'aime les mathématiques depuis que je suis gamin, et chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, eh bien, je saisis cette occasion parce que j'adore en parler, tout simplement.
Et pourtant, peut-être que certains vous auraient dit « attention, casse-cou, n'y va pas
». Oui, aujourd'hui, je vais parler d'exercices de bac, et vous imaginez que j'ai passé mon bac il y a quelques années déjà. Et en plus, on va parler de parties mathématiques qui ne sont pas tout à fait ma spécialité. Mais j'aime parler des maths, tout simplement.
Bon, en tout cas, même question à vous adresser, François Sauvageau. Mais les probabilités sont l'une de vos spécialités, peut-être la spécialité principale maintenant.
Oui, bon. Alors, moi, pourquoi ? Ben, d'abord parce que j'aime beaucoup la science populaire et je m'en suis engagé là-dedans il y a quelques années déjà. Et pour moi, c'est important d'avoir un contact et d'aller toucher le grand public, d'une part. Et d'autre part, quand j'ai commencé à me poser des questions justement sur mes interactions avec le grand public, il y avait la question des probabilités, comment elles sont perçues, comment elles sont vécues, comment elles sont comprises, quelles sont l'intuition qu'on a. Un siècle après la mécanique quantique, un siècle après le mouvement brownien, qu'est-ce qui reste dans l'intuition commune ?
Suite de ces questions préalables, en tout cas, que je vous adresse à nouveau, c'est curieux, d'ailleurs, vous n'avez pas répondu à la radio, c'était intéressant quand même, parce que nous n'avons pas l'image, hein, donc nous n'avons que le recours des mots. Enfin, donc, seconde question à vous adresser, Étienne Gis, comment vous voyez le bac ? Quelle est son importance ?
Alors, le bac, c'est bien entendu un symbole pour toute la France. Hein. C'est presque un passage rituel. Hein. C'est un moment où on passe d'une étape à la suivante. Je pense que la majorité des enseignants voient le bac un peu comme un passage obligé qui perturbe un peu leur travail, qui perturbe un peu leur façon leur programme. Tout se passe en fonction du bac et ça complique bien sûr leur travail. Donc dans l'idéal, on pourrait supprimer le bac. Mais c'est tellement compliqué à évoluer dans ce domaine que je pense qu'on ne va pas le supprimer demain. C'est comme le service militaire qui était aussi un passage obligé. Un jour, on l'a fini par le supprimer.
Et petite remarque quand même, c'est 90% des candidats qui vont l'avoir, ce bac.
Voilà, ça c'est une première chose qu'on peut dire peut-être aux lycéens. Rassurez-vous, vous avez 0,9 probabilité de réussir le baccalauréat. Donc allez-y tranquille, tout ira bien.
François Sauvageau, vous rajouteriez quoi ces considérations générales sur l'importance du bac après les réponses d'Étienne Gis?
Oui, enfin, moi je ne suis pas tellement orienté vers la suppression. C'est effectivement un moment de passage. Je crois que c'est l'enjeu pour moi, c'est d'être capable d'armer un citoyen, un futur citoyen, pour qu'il puisse débattre, se saisir de questions. Et pour ça, y a besoin de faire des bilans. Et ces bilans, ils ne se font pas naturellement. On voit que quand on travaille dans l'urgence, alors il y a des problèmes qui se posent, mais il y a aussi ce moment où on se pose et on est obligé de, quelque part, faire le point sur tout ce qu'on sait et comment on l'a appris. Et je crois que c'est important aussi, ces moments-là.
Question encore plus précise, donc dans le cadre de ce bac, dont 90% des candidats vont mettre le petit papier dans leur poche, une fois les épreuves passées, l'importance des mathématiques, oulala, question brûlante, hein, dans le cadre du bac, l'importance des mathématiques, outils de sélection, pour répéter les clichés habituels ou au contraire.
C'est un cliché, mais c'est aussi une vérité. Hein. Mm-hmm. Il faut bien qu'on constate que le bac S dit scientifique est sans aucun doute un bac S sélection. Hein. Et dans le bac S, les mathématiques d'aujourd'hui jouent ce rôle de sélection avant tout. Et je pense que la plupart des mathématiciens le regrettent. Hein. Nous sommes passés de la sélection par le latin à la sélection par les maths. C'est bien dommage. Ça serait, me semble-t-il, bien préférable d'avoir une section du bac qui soit plus scientifique, avec moins d'élèves probablement, mais qui aurait un vrai intérêt pour les sciences. Aujourd'hui, les gens, beaucoup d'élèves vont en bac S sans avoir une véritable motivation scientifique.
Même question, là encore, on va jouer à ce jeu complémentaire. Quelques compléments, François Sauvageau.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Étienne. Je crois que tous les mathématiciens, toutes les mathématiciennes regrettent profondément le côté sélection des mathématiques. Ça fait en fait beaucoup de dégâts pour la discipline, et dans l'image et aussi dans la façon de l'appréhender. Et je crois qu'en fait l'enjeu du bac, ça serait plutôt pour moi en maths que d'armer les citoyens pour comprendre, en tout cas ne pas avoir peur de débattre sur des objets qui sont éventuellement mathématiques, voire même de les utiliser eux-mêmes, avec modestie. C'est aussi ça qu'il faut apprendre quand on fait des mathématiques, c'est qu'on n'a pas tout compris avec les mathématiques, et qu'en même temps, on a comme une part de vérité à découvrir en s'appuyant dessus.
Alors, considération d'ordre général, mais qui ne s'adresse pas strictement à la terminale, bien évidemment, c'est donc des considérations qui sont chiffrées, tiens, des proportions d'ailleurs, des statistiques plus exactement, pardon. 22,3% des jeunes Français sont faibles en maths. Seuls 78% sont capables de répondre que si Hélène a parcouru 4 km en 10 minutes, puis 2 km, les 5 minutes suivantes, elle a roulé à une vitesse constante ou pas ? Mmh. Alors, le rapport PISA 2013 dit que, en particulier vis-à-vis du niveau des mathématiques, 88% des petits Finlandais sont bons, 96% des petits de Shanghai sont bons, les Français, je le rappelle, 78%. La chose est quand même grave parce qu'en 10 ans, le niveau moyen des maths en France a baissé. Et entre guillemets, les décrocheurs donc sont passés, alors là encore, statistique, 16,6% en 2003 à 22% aujourd'hui, soit 40 000 nouvelles victimes d'un numérisme chaque année. Naufrage d'une certaine manière. Marquage social fort, évidemment, puisque de toute façon, l'origine sociale fait que ceux qui sont pas bons en maths sont pas bons en français non plus. Donc il y a le innumérisme ou l'innumérisme, et puis il y a la grammaticalité, et ainsi de suite. C'est quand même un peu abyssal, non ?
Bon, on peut faire peut-être au moins deux commentaires sur ce que vous nous venez de dire.
Allez.
Le premier, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, un ministre de l'Éducation nationale, dont j'ai oublié le nom, a été incapable, la télévision, de résoudre un problème encore plus facile que celui d'Hélène qui marche 400 mètres en 2 minutes. La situation actuelle est qu'en France, il est plutôt bien vu d'être nul en maths. Pour une raison qui m'échappe, hein, dans les milieux
aussi
intellectuels, il est très mal vu de ne pas avoir lu Baudelaire, mais il est normal et même bien vu de ne pas être capable de résoudre les exercices que nous allons faire tout à l'heure.
C'est le sujet d'un film, d'ailleurs.
Donc c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que les mathématiques sont d'une richesse extraordinaire, et les limiter à un problème d'arithmétique, c'est faire une grave erreur. La compétence mathématique a de nombreuses facettes, qui peuvent être géométriques, algébriques, logiques, etc., etc. Et mesurer la compétence mathématique d'un adolescent en lui demandant s'il est capable de calculer la vitesse d'Hélène, me semble un peu réducteur.
Donc, une première lecture. Alors, je dois dire que parmi donc la masse de tous les sujets donnés dans l'année 2012, donnés dans l'année 2013, 5 ont été choisis. Donc, on s'est arrêté sur ce problème de probabilité. Je vais vous demander, Étienne Gis, de nous le lire et puis vous le relirez tout à l'heure, François Sauvageau, quand on en fera donc la résolution, la démonstration.
Très bien. Alors, je vais lire l'exercice de la manière la plus neutre possible, comme si j'étais un élève qui rencontre cet exercice. Exercice 1. Un club à 100 adhérents. Leur répartition est décrite dans le tableau ci-dessous. Suit un tableau qui contient deux lignes et deux colonnes. Chaque ligne contient un mot, marié, célibataire. Chaque colonne contient un mot, homme, femme. Et on lit par exemple 48 hommes mariés, 27 femmes mariées, 12 hommes célibataires, 13 femmes célibataires. On choisit un adhérent au hasard. On considère les événements suivants. H. L'événement, l'adhérent choisi est un homme.
Fermé. F.
L'événement, l'adhérent choisi est une femme. M. L'événement, l'adhérent choisi est marié. C. L'adhérent choisi est un célibataire.
L'adhérent choisi est un célibataire, fermez les guillemets.
Dans cet exercice, on donnera la valeur exacte de chaque probabilité. Donc suivent trois questions. Premièrement, calculer la probabilité de l'événement F ainsi que celle de l'événement M. Deuxièmement, déterminer la probabilité que l'adhérent choisi soit marié, sachant que c'est une femme. Les événements F et M sont-ils indépendants? Justifiez votre réponse. 3. Déterminez la probabilité que l'adhérent choisi soit un homme, sachant qu'il est célibataire.
Alors voilà donc exposé ce problème, soumis donc à nos considérations. Suite, bien sûr, de ce rendez-vous de Continent Science totalement expérimental aujourd'hui, dans le cadre général de cette semaine spéciale BAC. Et je vais vous demander tout de suite, avant qu'on passe à la résolution proprement dite, d'abord, bon, évidemment, de remarquer qu'il s'agit de probabilité. Petit commentaire d'ordre général, ça ne fait pas l'unanimité tout le temps, mais la petite réponse courte que je vous suggère à l'un et à l'autre. Il y a une petite prévention contre les probabilités.
Oui, alors au niveau des enseignants, comme au niveau des chercheurs, mais même au niveau des enseignants, il y a des lignes de fracture entre ceux qui pensent que les probas ne sont pas des maths, ceux qui au contraire pensent que ça fait un peu trop longtemps qu'on n'en a pas mis. Et puis il y a ceux qui sont peut-être entre les deux, qui estiment soit que les probabilités qu'on fait à l'heure actuelle, qu'on a essayé d'introduire, ne sont pas celles qui mériteraient d'être là, ou que au contraire, elles sont trop fines pour être abordé à cet âge-là, et que donc il faudrait préparer le terrain autrement. Ouais, beaucoup de questions là-dessus. Et c'est vrai que les probabilités ont une histoire très riche, et parfois indépendante des mathématiques. On peut les faire remonter aux oracles grecs, par exemple. Et la question de savoir si à cette époque-là on faisait des maths en faisant ça est une vaste question. Donc il y a convergence au niveau du vocabulaire d'un certain nombre de choses. Des mots comme espérance laissent souvent penser quelque chose que n'est pas l'espérance mathématique.
L'aléa, on pourrait dire aussi.
L'aléa,
l'inquiétude devant l'aléa, l'inquiétude devant la fortune, ou
exactement,
au contraire,
voilà,
la bonne attente. La chance, d'ailleurs, et c'est curieux, d'ailleurs, en anglais, c'est le même mot, tiens, chance.
Mais,
voilà.
C'est pas tout à fait. C'est justement pas le même sens.
Oui, et c'est pas le même sens. Alors, question de principe, là encore.
Juste un mot pour compléter ce que dit François. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Tout dépend, bien sûr, aussi de la génération, soit de l'enseignant, soit du chercheur. Moi, par exemple, je fais partie de la génération des maths modernes. On m'a fait des maths modernes dès que j'étais en seconde.
L'époque bourbakiste.
Je suis l'époque bourbakiste et par conséquent, de ma vie, je n'ai jamais suivi le moindre cours de probabilité. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait impossible d'avoir une licence sans avoir de cours de probabilité. Donc voilà, je suis totalement incompétent aujourd'hui, puisque je n'ai jamais suivi le moindre cours de probabilité. Et effectivement, il y a donc une fracture qui se voit assez bien au niveau des chercheurs en fonction de leur âge, tout simplement, et de leur formation intellectuelle initiale. Mais je vous rassure, moi, je suis tout à fait favorable aux probabilités au lycée, bien sûr.
Petite incise, et parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous poser cette petite question, et on reviendra après donc à la question qui concerne directement le problème concerné. Quel est votre domaine de recherche, Étienne Gys, à vous en mathématiques? Quel est dans quel sous-ensemble disciplinaire vous êtes? En quelques mots,
je vais tenter d'y répondre très rapidement, parce que vous, mais c'est la question que je hais en général,
oui.
Parce que j'aime les maths.
Bon.
Et j'aime faire des maths les plus variées possibles.
Bon.
Alors, il est évident que j'ai mes petits domaines privilégiés.
Non, mais alors, pour aller vite, vous êtes plus géomètre, algébriste.
Pour aller vite, je suis un géomètre, topologue,
bon.
Spécialiste
d'accord.
En système dynamique.
Voilà. D'accord.
Alors, ma même réponse, je n'aime pas les frontières, je n'aime pas me mettre dans un catalogue. J'ai choisi un domaine des mathématiques, d'ailleurs, où il y avait le plus d'interactions possibles entre tous les domaines des maths. Pour faire court, ça s'appelle le programme de Langlands, qui est donc un objet qui est à mi-chemin entre la théorie des nombres et l'analyse harmonique, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à transformer un son en CD, en nombre, et réciproquement à lire un CD sur une platine disque. Et je me suis orienté également, tardivement, ou en même temps pendant ma formation et tardivement en termes de didactique, vers les probabilités.
Je me lance encore ensemble cette première question, et on passe vraiment cette fois à la question donc de méthode et de posture. On dit généralement que les matheux se divisent en deux. Il y a ceux qui sont violonistes et ceux qui sont clavecinistes. C'est-à-dire que les violonistes, ils aiment le continu, donc ils seraient plutôt géomètres. Et puis, il y a ceux qui aiment le discret et qui seraient plutôt algébristes. C'est là encore une schématique un peu niais.
Vous voulez que je réponde en deux minutes? C'est une question complexe, très complexe.
Je crois qu'on fait tous les deux à la fois.
Bon, vous faites les deux à la fois, donc vous jouez du clavecin et vous jouez du violon. Alors, question d'importance, et maintenant on revient très sérieusement pour rendre service évidemment aux candidats du bac, là, et correspondre au cahier des charges que nous nous sommes fixés. Quelle est, François Sauvageau, la bonne posture, d'abord, à avoir quand on est face à un énoncé de problème? Le lire?
Alors oui, bien sûr.
Le lire bien?
La première chose, d'abord se calmer, se dire qu'il faut le lire à tête reposée et ne pas se précipiter déjà. Donc avoir sorti ses affaires, avoir posé un peu tout ce qu'on avait à poser, histoire que l'esprit soit prêt à être disponible à recevoir des choses. Donc lire lentement, lire jusqu'au bout, l'ensemble des questions. Pourquoi? Parce que ça fait remonter en mémoire un certain nombre de choses, ça fait remonter le cours, ça fait remonter ce qu'on a vécu, les exercices qu'on a pu faire éventuellement aussi, ça fait remonter un peu le sens, ça permet éventuellement d'aller voir ce qui est dit après, peut-être qu'il y a des indications implicites sur ce qui va être fait avant, etc., etc. Donc c'est important de lire une première fois en entier, de ne pas se précipiter sur la première question qui vient, en disant ça je sais faire, donc je vais le faire tout de suite. Et puis, commencer à rédiger, à écrire sur un brouillon quelques calculs, griffonner quelque chose, certainement pas sur la copie, à mon sens, de façon à pouvoir en donner une rédaction propre et claire, sans rature et de tout ce qu'on veut exposer.
Peut-être que je peux rajouter, je suis d'accord bien sûr avec ce que vient de dire François, il faut bien sûr lire l'exercice tout entier, mais ce qui me semble aussi important, c'est de lire tous les exercices, lire tout le problème entier.
Jusqu'au bout, c'est ce que vous voulez dire.
Parce qu'il est bien probable que l'un des exercices va être un peu difficile pour l'élève, mais peut-être que le dernier exercice sera plus abordable. Et il serait vraiment dommage qu'il perde son temps sur un exercice qu'il ne sait pas résoudre, alors que le dernier exercice, au bout de la copie, était accessible. Donc il me semble très important d'avoir une lecture calme. On a le temps, ils ont 3 heures. Et d'avoir une lecture calme de l'intégralité du problème qu'il aurait présenté.
Alors, autre attitude de posture aussi, parce que, et l'un et l'autre, je subodore que vous êtes agacé par ceux qui cherchent tout de suite et rapidement, voire avec la calculette, à trouver la formule, à adapter. Est-ce qu'on peut dire de manière raisonnable que dans cette lecture calme et pondérée que vous venez de définir, que vous venez de préconiser plutôt, est-ce qu'on doit faire attention aux concepts importants, aux notions importantes, et voire même aux indicateurs de raisonnement qui sont importants? Par exemple, là, à l'évidence, parce que c'est subtil, le terme de « sont-ils indépendants ?» L'indépendance, dans les probabilités, c'est quand même une notion d'importance, hein, et subtile. Donc, est-ce que Là encore, ça peut être, ça n'est pas du temps perdu que de lire lentement. Allez, Étienne Gims.
Bien entendu, les mots qui sautent aux yeux dans ce texte, c'est le mot qui saute aux yeux, c'est le mot indépendance, qui en probabilité est peut-être le premier concept non trivial, comme dirait un mathématicien, le premier concept qui n'est pas complètement facile, quoi. Donc évidemment, l'élève doit se remettre bien en tête ce que veut dire l'indépendance de deux événements, et il doit comprendre aussi que l'exercice est conçu pour le prendre par la main et le conduire à cette indépendance, ou cette non-indépendance, comme on verra tout à l'heure. Donc il me semble clair que l'exercice est bien fait, que il faut, là, en l'occurrence, il faut faire l'exercice 1 avant le 2, et puis le 2 avant le 3, et que tout est bien conçu, il ne faut pas aller plus vite que le vent, quoi.
Eh bien, c'est parti. Donc je vais vous demander à votre tour, François Sauvageau, de nous lire le problème.
Et de le corriger.
Et de le corriger. D'accord. Allez, c'est parti. Et
est-ce que je peux critiquer François si la solution n'est pas bonne ?
Nous sommes dans l'expérimental pur.
Allons-y.
Avec donc plaisir. Vous faites exactement ce, comme vous l'entendez.
Alors je tiens à dire déjà aussi, en tant que mathématicien, que je trouve très important de dire qu'il n'y a pas de solution unique, normée. D'ailleurs, un commentaire que j'aurais pu faire sur PISA, un des problèmes de ce genre d'évaluation, c'est qu'elles sont très normatives. Donc, il est d'ailleurs rappelé au candidat, sous une forme qui fait parfois sourire, mais qui me semble importante, la chose suivante. Donc, je vais vous lire aussi, qui est juste avant l'exercice, qui est en fait dans l'entête du problème de bac. Hein. Le candidat, j'aurais bien précisé la candidate aussi d'ailleurs, est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse. La clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. Alors pour moi c'est important, et c'est aussi important de se dire que dans la résolution, on a aussi la main, c'est-à-dire qu'on peut le formuler un peu comme on le voit, comme on le sent. Ça c'est important, il n'y a pas de solution experte qui primerait sur le reste, il y a plusieurs façons de faire les choses. On en reparlera d'ailleurs au sujet de la deuxième chose qui est en gras dans cet exercice. Alors je vais commencer par les choses qui ne sont pas en gras. Donc un club à 100 adhérents, leur répartition est décrite dans le tableau suivant, ci-dessous. Donc, suit un tableau avec deux lignes et deux colonnes. Les intitulés des lignes sont mariés, entre parenthèses E, S, et célibataires. Et les colonnes, c'est hommes et femmes. Et on peut déduire, mais déjà là, c'est une lecture. C'est intéressant de voir que pour le lire, je suis obligé de vous donner une interprétation de ce tableau. Mmh. Je vous dis qu'il y a 48 hommes mariés, 27 femmes mariées, 12 hommes célibataires et 13 femmes célibataires.
François, est-ce que je peux te coûter ?
Oui.
La première chose à faire, c'est de s'assurer que le problème est en effet cohérent et qu'il y a en effet 100 personnes.
Exactement.
Hein, il faut 60 donc, hommes et 40 femmes.
Il faut s'assurer qu'au total, les 4 chiffres qu'on donne font un total de 100. Sinon, il y aurait comme un petit problème.
Je te remercie de m'avoir devancé sur cette remarque que j'avais prévue.
Alors,
on choisit un adhérent au hasard. Donc le hasard ici n'est pas indiqué. Par défaut, on va penser que le hasard est uniforme. C'est le cas donc, dans cet énoncé de Bach. On pourrait remettre cette chose en question. C'est très intéressant de savoir quelle est la modélisation qu'on a du hasard. Qu'est-ce que ça veut dire, notre hasard ? Ici, c'est souvent un hasard, finalement, d'ignorance.
Oui. Hein,
et non pas un hasard qui serait lié à un autre phénomène plus profond. On ne sait pas comment on tire, donc on va dire qu'on fait ça avec une loi uniforme. On considère les événements suivants. Le mot « événement » est un mot assez précis en probabilité, qui ne veut pas vraiment dire, qui n'est pas casuel, qui est vraiment qui définit quelque chose qui est proche de la notion d'ensemble, en fait, et donc qui doit être acquis au moment où on lit cet énoncé. Donc, à mon avis, c'est un mot qui est même le mot « zéro » avant le mot « un » qui est important, qui est indépendant. Le mot « événement » est un mot, finalement, qui doit être bien circonscrit. Donc, suivent quatre événements décrits par des lettres. Donc, H, l'événement, l'adhérent choisi est un homme. F, l'événement, l'adhérent choisi est une femme. M, l'événement, l'adhérent choisi est marié. C, l'événement, l'adhérent choisi est célibataire. Suit une phrase qui est en gras et qui dit la chose suivante. Dans cet exercice, on donnera les valeurs exactes de chaque...
La valeur exacte.
Moi, j'ai les.
Ah, là, moi, j'ai là.
D'accord. Les valeurs exactes de chaque probabilité.
Bon.
Peu importe, on doit avoir deux saisies
oui,
différentes.
La valeur exacte.
Ça veut dire la même chose ici. Non, donc absolument. La question se pose pour nous, mathématiciens, qu'est-ce que ça veut dire, valeur exacte ? Valeur exacte, est-ce que c'est celle que donne une calculatrice avec autant de précision qu'on peut ? Ou est-ce que c'est un nombre rationnel comme les Grecs les affectionnaient ? Pour un mathématicien, il est bien clair qu'un tiers est un nombre tout à fait exact, et même probablement plus exact que n'importe quelle calculatrice pourrait donner, que ce que pourrait donner n'importe quelle calculatrice. Alors il se trouve que dans l'exercice, tous les nombres qui vont apparaître sont décimaux et ont en fait au plus 3 chiffres après la virgule, à part des zéros bien sûr si on veut en rajouter. Et donc en fait l'exactitude est probablement sous-entendue comme étant un nombre avec
décimales.
Toutes ces décimales,
décimales
en tant que nombre décimal écrit avec
des virgules. Là c'est très implicite. Hein. Je pense que le concepteur du problème avait probablement en vue, il veut un chiffre quoi, oui. Écrit avec, des, avec une voilà. Virgule. Quoi.
Bon, ce qui veut dire, si je ne me trompe pas, que ça ne doit pas être sous forme d'un nombre rationnel.
Voilà,
voilà.
Ça veut dire que
hein,
si,
bon,
enfin, fraction. Si, oui. Si okay. On trouve un résultat qui est 27 quarantième, le correcteur ne sera pas content.
Voilà, il faudra effectuer la division jusqu'au bout. Et probablement sans calculatrice, sauf si elle a la vertu de faire du calcul formel, comme certaines le font maintenant. Bien. On attaque les vraies questions, puisque là, on était dans l'ambiance. Cette ambiance est importante, hein, il faut vraiment s'en imprégner pour voir où on veut aller. Je fais une toute petite remarque, c'est que dans la plupart des problèmes à l'heure actuelle, on aura non pas un tableau, mais ce qu'on va appeler un arbre de probabilité. Oui. Et que j'essaierai de revenir là-dessus pour voir comment ça se traite à l'heure actuelle.
Ça ne vous plaît pas?
Non, ce n'est pas que ça ne me plaît pas, c'est que ça a des enjeux différents. Moi, j'aime beaucoup... Enfin bon, on en reviendra tout à l'heure. Passons plutôt à l'exercice. Donc, première question... Calculer la probabilité de l'événement F. Donc je rappelle que F, il faut aller le relire, hein, c'est implicite par la lettre, mais c'est l'événement. L'adhérent choisi est une femme. Donc calculer sa probabilité ainsi que celle de l'événement M, qui est l'événement choisi et marié. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit calculer un événement sachant qu'on a choisi un adhérent au hasard? Donc quand on choisit un adhérent au hasard, la probabilité de l'événement, c'est tout simplement le nombre de fois où il est possible qu'il advienne. Le tirant d'une façon uniforme. Ça revient donc à compter le nombre de cas favorables par rapport à l'ensemble de nombres, le nombre de cas total. Donc le nombre total, on le sait, c'est le nombre d'adhérents du club, c'est-à-dire 100, donc oui. On aura un pourcentage tout à fait directement. Et il s'agit donc de compter le nombre de femmes. Le nombre de femmes, eh bien, il y en a 27 qui sont mariées, 13 qui sont célibataires. C'est tout ce qu'il y a comme femmes, les autres sont des hommes. Et par conséquent, on additionne 27 et 13 pour obtenir 40.
Sans la calculette.
Sans la calculette de préférence. En se souvenant que 7 et 3 sont des amis, puisqu'ils sont complément à 10, on doit s'en souvenir avec les doigts. Et donc 40 divisé par 100, donc 40%, soit plutôt 0,4 comme première réponse.
C'est ça. Donc on a donné sous les deux formes.
Hein. Oui.
Sous la forme fractionnaire et sous donc, la forme décimale.
Je remarque d'ailleurs que la plupart des lycéens et des lycéennes ont une tendance à être assez flemmards et préfèrent n'en mettre qu'une. Et en bon matheux, moi j'aime bien en mettre deux, trois différentes, histoire de rappeler que tous ces nombres sont les mêmes. Bien, ensuite l'événement M qui est, de, je vous rappelle, être marié. Donc cette fois-ci, il faut compter le nombre de personnes mariées. Alors le tableau nous dit qu'il y a 48 hommes mariés et 27 femmes mariées. On additionne donc les deux, les autres étant célibataires. 48 plus 27, 75. Donc là, 8 et 7, c'est peut-être un peu plus compliqué à faire de tête, mais je crois que ça fait du bien de se souvenir que ça s'additionne facilement quand même. Et donc 75%, donc 0,75 tout simplement.
Et encore une fois, sous nombre fractionnaire, 75.
Voilà. Alors, on aime bien aussi de temps en temps les pourcents. Moi, je dois avouer que c'est souvent plus... ça prête plus à confusion qu'autre chose, l'écriture avec le petit pourcent. Finalement, parce qu'après, on ne sait plus trop ce qu'on a le droit d'additionner, comment, etc. Je préfère les nombres où on voit bien qui est qui dans le rapport. Bien. Ensuite, deuxième question, donc, qui est directement liée à la première, il faut s'en souvenir quand on lit les choses. Déterminer la probabilité que l'événement choisi soit marié...
Que l'adhérent.
L'adhérent choisi soit marié, sachant que c'est une femme. Il s'agit donc de se dire, parmi toutes les femmes, quelles sont celles qui sont mariées. On est donc en train de restreindre l'ensemble des possibles en sachant déjà, on a une information, l'adhérent n'est plus choisi au hasard, l'adhérent est choisi parmi les femmes. Mmh. Les femmes, on sait qu'il y en a 40%, c'est-à-dire en fait 40 au total, puisque le club a 100 adhérents. Donc il y a exactement 40 femmes, et parmi celles-ci, il y en a 27 qui sont mariées. Il y a donc 27 parmi 40 femmes mariées. La probabilité que l'adhérent soit marié, sachant que c'est une femme, est donc 27 parmi ces 40, soit 27 divisé par 40. Donc c'est là qu'il s'agit d'effectuer une division, alors soit de tête, soit avec une calculatrice, c'est quand même mieux de tête, alors allons-y. 27 divisé par 40, donc la première chose, c'est que 40, c'est 4 fois 10, donc on va diviser par 10, ça c'est pas dur, il suffit de rajouter une virgule, donc 2,7 divisé par 4. Et divisé par 4, on va le faire en deux temps, parce que divisé par 4, c'est 2 fois divisé par 2. On va diviser par 2, 2,7, pour obtenir 1,35. et rediviser par 2 pour obtenir 0,675. Donc il y a donc une probabilité de 0,675 ou, dit en pourcentage, 67,5%. Voilà. La question qui est subtile et qui jaillit à partir de ce calcul est: les événements F et M, donc être une femme et être mariée, sont-ils indépendants? Justifiez la réponse. Alors l'indépendance a plusieurs façons d'être pensée, et je crois que c'est là que le concept est important, qui du coup se prête à deux calculs différents. La première, c'est de savoir, est-ce que finalement, le fait de tirer un dé pour savoir si c'est une femme, ou tirer un dé pour savoir si c'est marié, les deux réponses sont indépendantes, autrement dit, se vivent dans deux dés qui sont différents. Et ça se dit quand on calcule un petit peu sur un dé, que les probabilités de chacune vont être indépendantes les autres quand elles se multiplient entre elles. En fait, quand on va tirer avec une chance sur 6 un nombre entre 1 et 6, et un autre une chance sur 6 un nombre entre 1 et 6, quand on croise toutes les probabilités, on fait un tableau. Ce tableau a 6 lignes et 6 colonnes. En tout, il y a 36 cases, parce que quand on a un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes, et bien le nombre de cases, c'est le nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes. De même que la longueur fois la largeur donne la surface d'un rectangle. Donc ici, l'indépendance correspond à se dire que chaque case, finalement, est dans sa ligne ou dans sa colonne de façon indépendante. Et il faudrait donc que la probabilité de l'événement F et M, c'est-à-dire être une femme mariée, qui est donc la case qui correspond à être femme et mariée, se lise à travers la probabilité de la ligne mariée et de la colonne femme. Autrement dit, que la probabilité d'être une femme mariée, ce soit exactement le produit, la multiplication par l'événement être une femme et être mariée. Alors on a calculé juste avant ces événements, être une femme et être mariée. Donc être une femme, je vous le rappelle, c'était 0,4 ou 40% si vous préférez. Et l'événement être marié, c'était 0,75 ou si vous préférez 3 quarts. J'aime bien 3 quarts parce que 3 quarts fois 0,4, comme 3 quarts de 4 c'est 3, ça fait 0,3. Or, on vient justement de calculer l'événement être une femme mariée, enfin être une femme, être mariée sachant qu'on est une femme, et on a trouvé 0,675. Donc l'événement qui correspond... Ah non, pardon, excuse-moi, je m'emballe. C'est tout simplement, l'événement être une femme mariée, c'est 27, il y a 27 femmes mariées. Et donc, on a 27% de femmes mariées, soit 0,27. Et 0,27 par rapport à 0,3, ce n'est pas la même chose. Donc les deux événements ne sont pas indépendants. On aurait pu faire un autre calcul, c'est celui que je m'apprêtais à faire avec un peu d'anticipation tout à l'heure, c'est de dire que deux événements sont indépendants. En fait, quand le fait de savoir qu'on est face à une femme ne change rien, autrement dit que la probabilité d'être marié sachant qu'on est une femme, eh bien, c'est comme si on ne savait rien, c'est-à-dire que la probabilité d'être marié. On a aussi calculé la probabilité d'être marié, c'était 0,75. La probabilité d'être marié sachant qu'on est une femme, c'est 0,675. Ce n'est pas la même chose. Donc une nouvelle fois, et c'est bien finalement d'avoir fait les deux calculs, on a la confirmation que les deux événements ne sont pas indépendants. Savoir que c'est une femme nous donne une indication sur le fait que la probabilité est différente d'être marié par rapport au fait qu'on a tiré au hasard un adhérent dans le club. Voilà, je ne sais pas si c'est clair.
Etienne Gis,
je confirme.
C'est clair. Bon, j'en profite d'ailleurs pour reprendre une des petites remarques que vous faisiez, Etienne Gis, c'est de rappeler que très souvent, un terme, indépendant par exemple, dépendant, mais on peut en prendre d'autres, et qui soient plus du vocabulaire mathématique, les antinaturels, les rationnels, ainsi de suite. Les termes de la langue courante française ne sont pas synonymes des termes de la lingua mathematica.
Oui,
et ça, c'est une question importante à vos yeux. Il faut faire le distinguo de façon forte.
Il y a un exemple célèbre, je crois, c'est une phrase de Hilbert, le grand mathématicien du début du XXe siècle allemand, qui disait que les mathématiques étaient indépendantes du langage. Et il suggérait que si on remplaçait chaque fois le mot « point » par le mot « chaise » et le mot « droite » par le mot « bouteille », on obtiendrait des énoncés du genre « par deux bouteilles passe une chaise », et que ces énoncés seraient tout aussi cohérents et tout aussi mathématiques, et que la mathématique n'avait pas besoin de sémantique, en quelque sorte. Mais bien entendu, c'est aller bien loin, et on a besoin de se reposer sur des choses qui sont concrète et intelligible. Donc ce sujet est passionnant, mais il faudra en parler plus longuement, bien sûr.
Eh bien voilà, allègrement passé le mi-temps de cette émission totalement expérimentale dans le cadre de cette semaine spéciale Bach, donc toujours Continent Science, dévolue dans cette ouverture de la semaine spéciale Bach aux mathématiques, comme vous l'avez compris. Nous reste avec ce problème de probabilité, la troisième question. Et puis il y a une petite demande. Alors comment la traduire, venue de la cabine technique, en particulier de celui qui nous met en onde, qui est donc Jean-Frédéric. Peut-être de dire de façon plus ferme les résultats. Alors, Étienne G, je vous laisse la résolution et la réponse à la troisième question. Voulez-vous que je la relise ?
J'y vais.
Vous y allez.
Troisième question, c'est déterminer la probabilité que l'adhérent choisi soit un homme, sachant qu'il est célibataire. Je dois dire que cette question est la plus facile de toutes, puisqu'on a déjà fait des choses analogues et bien plus compliquées dans la question 2.
Oui.
Alors, on fait la même manière. Combien y a-t-il de célibataires ? On les a comptés. Il y a 25 célibataires. Parmi ces célibataires, il y a 12 hommes. La probabilité d'être un homme sachant qu'on est célibataire est donc de 12 divisé par 25. Et je vais faire la même technique que François. Je multiplie en haut et en bas par 4. J'obtiens 48 divisé par 100. Je simplifie 0,48.
C'est ça.
Voilà. Alors donc, pour répondre à la cabine technique, les réponses sont les suivantes. Question 1. P de F égale 0,4. P de M égale 0,75. Question 2. P de F sachant M égale 0,675. Les événements sont-ils indépendants ? Non. Question 3. P de H sachant C égale 0,48.
Est-ce qu'on peut dire là, de façon générale, qu'effectivement, on peut... Est-ce que, allez, je me lance, et peut-être vais-je dire une bêtise, mais est-ce qu'on pourrait utiliser, par exemple, un diagramme de Venn pour faire ça, le nombre fractionnaire, est-ce qu'on peut jouer des ensembles ?
C'est plus à la mode, hein.
Oui.
C'est plus à la mode du tout.
Bah oui, très ringard.
Pardon, mais nous,
d'ailleurs, la plupart
nous sommes
des gens
petits vieux dans la
circonstance. C'est un diagramme de Venn, donc c'est juste des patates.
Je conseille
à faire deux dessins avec les gens et de faire les interactions. Et effectivement, c'est modélisé par le tableau.
Je pense pas que ça simplifierait.
Je vais insister par rapport, c'est vrai que j'ai englobé les réponses dans le discours, mais je crois que justement, il est essentiel pour moi de dire que les réponses finalement sont moins importantes. Parce que le raisonnement est prioritaire. Et ce que j'aime beaucoup dans cet énoncé de Bach, c'est que justement, il conduit en raisonnement. Trop souvent, on voit des énoncés de Bach de peut-être plus spécialisés, plus techniques, hein, puisque là, nous avons choisi un sujet de Bach L, spécialité maths. On voit des sujets qui sont finalement qui se campent sur la technique et qui en oublient un peu le sens. Et je trouve ici que ce que j'aime beaucoup dans cet énoncé, c'est qu'il y a énormément de part qui est fait au sens.
Alors avant de vous lancer, puisqu'on va avoir d'autres situations et d'autres exemples qui sont concernés par les probabilités de façon importante, le recensement statistique et les probabilités, vous m'avez suggéré, Étienne Gis, de parler d'un cas particulier qui concerne les maladies rares.
Oui, je voulais tout simplement dire que l'exercice qu'on vient de faire, qui met en jeu homme-femme, marié, célibataire, en fait, peu importe qu'on discute d'hommes et de femmes, de mariés célibataires, on est en train de croiser deux critères.
Oui. Ce que vous allez dire est extrêmement important, parce que ça peut concerner les gens de tous les jours.
Voilà, alors je voulais donner un exemple...
C'est médical.
Médical, mais qui, au bout du compte, est le même exercice que celui qu'on vient de faire.
Hein. Oui.
Alors, imaginez une maladie rare qui touche un millième de la population. Et imaginez qu'on dispose d'un test... pour voir si un patient a cette maladie ou pas, et que ce test marche très bien. 99 fois sur 100, un patient malade est détecté positif, une fois sur 100 négatif, et 99 fois sur 100, un patient sain est détecté négatif, et malheureusement, une fois sur 100, très peu, il est détecté positif. Donc le test est vraiment bon. Alors maintenant, essayons de voir comment le médecin qui a face à lui un malade testé positif, comment est-ce qu'il peut interpréter ce résultat ? On a envie de dire le test, il est bon, puisqu'il marche 99 fois sur 100. Donc un malade qui se présente un patient qui se présente avec un test positif, probablement sera malade. Alors faisons le calcul. C'est à peu près le même que celui qu'on vient de faire. Imaginons une population de 100 000 personnes. sur ces 100 000 personnes, 100 seront malades, un millième. Et 99 900 ne le seront pas. Sur ces 99 900 personnes saines, 1% d'entre elles, c'est-à-dire 999, disons 1000, 1000 seront déclarés positifs, bien que sains. Il y a donc 1000 personnes qui vont être déclarées positives au test, alors qu'ils ne sont pas malades.
Oui.
Par contre, parmi les 100 malades, eh bien 99% d'entre eux, c'est-à-dire 99, seront déclarés positifs. Disons 100. Au bout du compte, on aura 1000 personnes saines positives et 100 personnes malades positives. Donc le médecin qui voit arriver dans son cabinet un patient positif ne peut pas conclure que le patient en question est malade, puisque 10 fois plus sont en fait sains par rapport à la population de malades. Donc la probabilité qu'un patient soit malade, sachant qu'il est positif, c'est le calcul qu'on vient de faire, sera en fait de 1 sur 11. Finalement, très peu.
Eh oui, très réduit.
Très réduite. Ce qui fait qu'il faut se méfier des évidences qui tombent sous le sens, hein, qu'un test qui marche très bien, 99 fois sur 100, peut induire en erreur un médecin face à un résultat positif. Ce qu'il faudra faire, c'est croiser avec d'autres tests, tenter d'autres solutions, etc.
Voir recommencer, oui, voir recommencer avec un autre test, bien sûr.
C'est la différence, je crois qu'il faut insister sur, entre un test et quelque chose qui est exclusif, quelque chose qui est vraiment, qui détermine comme un test ADN, n'est pas une identification ADN, alors que l'identification par ADN, quelque chose de différent, permet vraiment de reconnaître les gens.
Autre exercice alors que nous avons mobilisé lors d'une émission de Continent Science qui avait trait au raisonnement et en particulier donc extrait, et c'était notre invité Olivier Houdet qui donc rappelait un exemple extrêmement célèbre là encore qui mobilise les probabilités et qui est le suivant, c'est un personnage fictif féminin qui s'appelle Linda. On raconte aux individus qui passent l'expérience donc, en général des étudiants, que l'histoire de Linda, dont le profil était celui d'une étudiante très engagée à gauche aux États-Unis dans les années 70. Il s'agit alors de faire une évaluation comparative des probabilités pour que l'ex-étudiante soit ayant atteint la trentaine A, employée dans une banque, ou B, employée dans une banque et militante dans un mouvement féministe. Les résultats indiquent que 90% des personnes interrogées, alors il n'y a pas que les étudiants, mais même des matheux qui avaient fait, qui avaient suivi des cours, des mathématiciens professionnels qui avaient suivi des cours, 80% d'entre eux considéraient que la proposition employée plus féministe était la plus probable. Et donc là, il y a une transgression immédiate des règles des probabilités, puisque de toute façon, on met deux éléments, deux occurrences, comment dire. Où est la faute ?
Il y a deux critères.
La probabilité de A intersection B est plus petite que celle de A.
Voilà. Étonnant quand même aussi.
Et ça, c'est aussi parce qu'on est dans un registre sémantique et qu'on est plutôt en train d'essayer de deviner, de faire une prédiction finalement. Et c'est pas tout à fait la même chose qu'un calcul. Et là, on voit que les probabilités mélangent finalement des choses qui sont dans le registre, dans le vocabulaire, qui sont dans le registre de la prédiction non argumentée, non étayée par des calculs, et puis celle qui est vraiment qui régit par un calcul.
Une confusion classique dans ce sujet, c'est justement de confondre deux mots qui sont le mot probabilité et le mot espérance.
Alors nous voilà à une bifurcation pour continuer à tenir des propos parce qu'il y a beaucoup de questions en particulier que j'aimerais vous poser. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait donc un distinguo à faire entre le hasard d'ignorance et qu'est-ce que ça peut être l'autre. C'est un hasard ontologique pour être un peu cuistre, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'aléa pur et ça n'est pas simplement l'ignorance des conditions même des développements que nous avons. Donc c'est évidemment un distinguo extrêmement ferme et fort. Mais est-ce que il est 45, malheureusement, je suis obligé de donner cette indication chiffrée, est-ce qu'on pourrait mobiliser l'exercice 4 que vous aviez retenu et l'un et l'autre, ou là encore, il y a quelques probabilités, il est plus compliqué, nettement plus compliqué. Étienne Gis, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Allons-y quand même. Hein,
on pour va le essayer. Début, pour le
début. D'accord. Alors. Je vais vous dire pourquoi on a choisi cet exercice, c'est parce que, ce qu'on peut le dire, il ne nous a pas plu du tout. Voilà. Le premier exercice, comme le disait François, mène à un raisonnement et est assez solide. Et je crois qu'on peut y résoudre, on peut le résoudre raisonnablement avec juste du bon sens. Le deuxième exercice est un peu surprenant. Alors je vais le lire rapidement. Il s'agit de modéliser la dépense des ménages en programmes audiovisuels exprimés en milliards d'euros au cours de l'année 1995 plus N. Suit un tableau qui indique les dépenses donc des ménages en milliards d'euros entre 1995 et 2010. Bon, un tableau comme on en voit un peu partout. Et puis arrive une formule dont on se demande bien d'où elle vient. Il est écrit soit f, la fonction définie pour tout nombre réel x par f de x égale moins 0,0032x cube plus 0,06x carré plus 5. Ne me demandez pas d'où vient cette formule, on risquerait de s'énerver. Alors, pour tout entier n compris entre 0 et 20, on décide de modéliser la dépense. Les mots modéliser est très à la mode, bien sûr. Hein. On décide de modéliser la dépense des ménages français en programme audiovisuel au cours de l'année n par le nombre f de n. Première question, calculer f de 5. François.
Oui, alors la raison, c'est qu'en fait, du coup, le choix des 32 et 6 font que la multiplication par 5 est sympathique à faire. On peut même la faire de tête. Et donc, on trouve, je ne sais plus, je l'avais calculé, 6,7, je crois, ou 6,7.
Donc, c'est un exercice de calcul. Bon. Deuxième question, déterminer le pourcentage P de l'erreur commise en remplaçant la vraie dépense en l'année 5 par F de 5. Alors... François,
précision.
Alors là, c'est là que c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, le pourcentage qu'on trouve est de l'ordre de, je sais plus, 3%. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est la réponse attendue. La réponse attendue sur ce pourcentage est de dire que voilà, puisque l'erreur commise est inférieure à 5%, on est bien content de l'approximation qu'on s'est donnée. Alors ça me semble tout à fait inquiétant de se dire que finalement, on apprend des recettes où, quelque part, on va chercher des écarts par rapport à ce qu'on est en train de faire de 30% et qu'on sera très content dès qu'on aura ceci ou cela. On voit bien, avec l'exemple qu'a donné Étienne tout à l'heure sur les tests en médecine, que, eh bien, il faut faire des fois attention que le 1% de l'un n'est pas le 1% de l'autre et que tout ça est tout à fait relatif. Donc là, je ne vois aucune raison de se satisfaire de ce 5%, d'autant plus que le modèle est vraiment arbitraire et à peu près n'importe quoi. Je tiens juste, pour clore ça, je ne sais pas si on est resté trop longtemps, que les nombres, que la période est faite en sorte que ce serait beaucoup plus intelligent si on parlait en dizaines d'années, ce qui remultiplierait tous les nombres par 10, on aurait beaucoup moins une virgule, on aurait les 3,2 x cube et des 6 x carré qu'on pourrait, et du coup le 5 ans serait une demi-décade et il suffirait de diviser par 2 et le calcul se ferait de tête.
Donc François et moi on s'est amusé il y a quelques jours à prendre cette série de nombres et utiliser un de ces logiciels de mathématiques pour ajuster et interpoler et extrapoler et on s'est rendu compte que la fonction f cubique qui a été choisie dans ce problème est absolument ridicule. Et qu'une brave fonction linéaire serait encore bien meilleure. Et pire encore, si on utilise la fonction f que propose l'exercice et qu'on essaye de calculer la dépense en l'an 2020, on trouve une dépense négative.
De façon générale, d'ailleurs, c'est une question que je ne voulais pas poser, antécédente hein, à la posture ou à la pause. Quid de la calculette ? Parce que certains s'empressent de rentrer des formules vite.
C'est le même problème, en fait. Bon, d'abord, la calculatrice est souvent une anti-sèche plus qu'autre chose. Donc, on ne se fait pas confiance. Et ça, c'est vraiment dommage, finalement, de déléguer la confiance à un ordinateur ou à une calculatrice, parce qu'elle est sujette à erreur, d'une part, mais surtout à mauvaise interprétation. Et puis, on se cale aussi sur des tables. L'exemple du bac S de cette année, qui est déjà tombé donc, au Liban, donne ce genre de questions. On a un ajustement à faire, une comparaison à faire à un objet qui est tabulé. Donc on repose sur des choses qui sont déjà tabulées, sachant que le problème majeur d'interprétation, et c'est un temps qui est une distance parcourue en vélo, et ce temps, c'est un temps de parcours, il est modélisé par une loi qui accorde une probabilité, non nulle, une probabilité, aux événements négatifs. Autrement dit, on se propose de modéliser les choses par un temps de parcours qui a le droit d'être négatif. Et là, on peut se demander où est-ce qu'on est et de quoi on parle.
Oui. Autre ordre de question aussi, on peut remarquer que d'une certaine manière, les probabilités ou la bonne lecture des estimations, en particulier au moment des évaluations de vote, font partie d'une certaine manière du bagage du citoyen, parce qu'il est désemparé. On peut repenser, c'est un exemple assez classique, hein, des élections de 2002, où se sont produites des erreurs extrêmement fortes sur les estimations entre le candidat Chirac et le candidat Le Pen, et donc que là, on voit d'une certaine manière que les instituts de sondage avaient quelques difficultés à, semble-t-il, avoir bien compris la fourchette d'erreur, non ?
Les mathématiciens qui lisaient les prédictions avaient en tête des barres d'erreur qui indiquaient que rien ne pouvait décider de qui seraient les deux premiers parmi le groupe de trois. Il y avait clairement un groupe de trois identifié qui serait en tête, un groupe de sept qui suivrait et un autre groupe de sept, je crois, qui suivrait. Mais ça ne suffisait pas à classer de façon certaine, en tout cas avec une probabilité suffisamment grande, les trois premiers. Je crois que de nombreux mathématiciens avaient alerté sur cette possibilité.
Les barres d'erreur, typiquement, sont de l'ordre de 3%.
Voilà, oui. Sauf pour certains candidats qui ont du mal à faire sortir leur candidat à l'annonce, qui des fois sont doublés. Alors en ce moment, c'est en train de changer. Il y a une espèce de décomplexe.
Décomplexification, allez, tentons le terme.
Voilà, de l'électorat.
Bon, alors juste pour finir et pour dire d'ailleurs que l'outil probabiliste est quand même absolument exceptionnel, puisque pendant longtemps, les recherches, on peut penser à Pascal, on peut penser à Fermat, on peut penser à Leibniz, les travaux de mathématiciens concernant les probabilités ont commencé. Pour ce qui est de l'essor au moment du début de la science classique, c'est plutôt la question du déterminisme qui a été triomphante et qui a mené, et quand apparaissent vraiment de façon forte là les statistiques et les probabilités, c'est un événement absolument magistral. On peut dire c'est l'événement de la mécanique statistique avec des très grands scientifiques comme évidemment Gibbs, mais surtout Boltzmann, qui en plus va trouver le moyen d'avancer dans l'affermissement de la thèse de l'existence des atomes. Et là,
vous parlez de physicien.
Oui, je parle de physicien et je parle de l'outil mathématicien.
Si vous parlez de mathématicien, voilà. Il faudrait citer d'autres noms peut-être
bien
moins
sûr
célèbres. En particulier, on peut penser à Paul Lévy, le oui grand initiateur de la théorie du mouvement brownien,
oui,
au début du XXe siècle. Et on pourrait citer aussi... Aide-moi, François, on parlait tout à l'heure de Bachelier, par exemple.
Ou de Laplace, oui, avec son grand traité, plus son traité de vulgarisation. Oui. On n'aura pas le temps de lire cette jolie lettre de Pascal à Fermat, qui est datée du 29 juillet 1654, à votre grande tristesse, Étienne Gys. Mais d'une certaine manière aussi, peut-être pour conclure, on peut dire que c'est difficile de faire de l'aléatoire pur. C'est là encore des recherches... qui sont menées aujourd'hui pour savoir si on a affaire à des séries qui sont vraiment aléatoires, par exemple. C'est assez étonnant, non ?
Oui, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, il y a plein de choses qu'on comprend aussi. Il y a des tests rigolos pour vérifier si c'est un être humain qui a falsifié des données ou des choses comme ça. On arrive quand même à voir un certain nombre de choses, mais il y a plein de choses sur lesquelles, finalement, c'est comme si je vous demandais quel est le nombre qui suit un 3-5.
Oui, c'est difficile, certainement, mais beaucoup de choses sont difficiles en mathématiques. Est-ce que vous voulez juste dire, peut-être pour conclure, mais c'est une banalité en tout cas, mais je l'ai dit quand même, les probabilités sont une partie des mathématiques.
Bien sûr. En tout cas, c'est celle que nous avons privilégiée aujourd'hui et nous allons passer le bâton aux exercices, bien évidemment, de demain qui vont se continuer dans cette semaine donc spéciale Bac. Nous arrivons au terme de Continent Science. En tout cas, merci de votre attention, merci de votre fidélité. Vous pouvez aussi, à l'adresse internet, nous adresser vos remarques et vos critiques. Aujourd'hui donc, mais vous l'avez déjà entendu, dans la cabine technique Jean-Frédéric, Daphné Abgral, Dany Journeau, Stéphane Denis-Georges, Continent Science, comme vous le savez, est balado-diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez bien sûr au site internet franceculture.fr, l'émission Continent Science. Vous avez ainsi la possibilité de nous télécharger, de télécharger Continent Science, le temps d'une grande année encore, donc demain, à la même heure, dans cette suite. Vous retrouverez René Friedman pour ses révolutions médicales, mais... bien adapté, et encore une fois, il poursuivra, mais dans les sciences biologiques, cette semaine, d'évoluer au bachotage. Quant à nous, bien sûr, Continent Science, même lieu, même heure, dans une semaine. Il me reste à vous souhaiter un très bel après-midi sur France Culture. Espérez que vous avez appris quelque chose en mathématiques aujourd'hui.